Vous écoutez
RMC.
RMC.
En Ligue des Champions, on sait que c'est des matchs coupe-gorge, voilà, où il n'y a pas le temps de réfléchir.
Nous avons décidé qu'il n'y aura pas d'écran géant de retransmission de la Coupe du Monde de rugby du Qatar à Bordeaux.
C'est une consigne du coach, mais c'est aussi une consigne de moi-même.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Voilà, je ne sais pas si le maire de Bordeaux s'est rendu compte que finalement c'était du football.
Pierre Arnic.
Ouais. Mais il n'y a toujours pas eu d'écran géant.
On me rappelle comment il s'était ce candidat à la mairie de Paris, là, le
Saint-Germain. Bien sûr.
J'ai envie de mes enfants.
Le matheux, le mathématicien.
Ouais,
Cédric Villani.
Villani, faut pas s'en souvenir pour l'homme politique.
C'est un grand mec.
En revanche, si en référence de saucisson, c'est bien. Le Villani, très bon saucisson italien.
Marc, Villani avait dit qu'il allait au match au parc. Il allait voir le parc Saint-Germain.
Il faudrait faire un after. Voilà, ton défi, Gilbert, en 2023, c'est réunir Cédric Villani et Pierre Ornic pour un débat football dans l'after.
Ah ouais, mais là, excuse-moi, c'est un ventilateur à auditeurs. Ils vont se répandre sur le reste de la bande FM. C'est non. La réponse est non.
Ah, il faut faire une émission absurde de temps en temps.
On peut rajouter Ramayad, qui nous avait dit dans l'after que l'Uruguay avait fait un bon euro.
Oui, aussi, ouais. Et elle, c'est encore plus grave parce qu'elle quand même, elle a été ministre des Sports. Bon, donc là, on a tout. Là, on a.
Comme quoi,
on
a jamais. En fait, on a jamais. Ça rejoint la conversation qu'on avait tout à l'heure. On a sur la considération du sport.
On n'a jamais touché le fond. Hein. Non, c'est ça. Ouais.
Alors, retiens la marque de saucisson. C'est ce qu'il y a de mieux dans l'histoire. Donc, vous venez de parler, je te promets.
Tout a une fin, Daniel. Sauf le saucisson, qui en a deux.
Messieurs, dames, il y a un peu plus. Il y a un peu plus d'un mois. Nous étions au moment de la finale de la Coupe du Monde, c'était le 18 décembre, c'est ça, 18 décembre. Voilà, personnellement, j'étais au stade avec Jérôme Thomas, Jimmy Brown, nous étions présents. Après un mois d'émission au Qatar, Georges Quirino Chavez, lui, était à Buenos Aires, au milieu de la foule. Et là, il est là ce soir, parce que Georges, il est comme ça. Quand c'est l'été chez lui en Argentine, il se dit, tiens, je vais faire un petit tour par 0 degré, là. J'ai envie d'avoir froid.
Et si je prenais 30 degrés de différence dans la tête.
Voilà. Salut Georges.
Salut les amis, bonsoir à tous.
Georges n'est pas qu'une voix, donc en fait, il existe. Il nous a enchanté. On peut lui dire de vive voix, on l'a dit souvent, mais il nous a enchanté pendant la Coupe du Monde de la façon dont il nous a fait vivre la Coupe du Monde au pays, en son pays, l'Argentine.
Si je peux permettre, sauf quand il se mettait dans des bars où il y avait trop de bruit et trop de monde qui gueulait derrière lui. Mais sinon, c'était parfait.
Non, mais bon, c'est vrai qu'il s'est passé deux, trois trucs pendant cette Coupe du Monde.
Non.
En plus, donc, tout le scénario.
Moi, je me souviens de Georges après l'Arabie Saoudite. Ah oui,
c'est ça.
Comment tu flippais?
Non mais attends, mais tout le pays flippé, il faut s'en rendre compte quand même, hein, après le match contre l'Arabie Saoudite, enfin ça c'était la dépression totale dans les rues de Buenos Aires, je sais pas, les gens sortaient pas dans les bars,
on peut pas se rendre compte, nous ici, ouais, ouais. Georges, tu vas nous l'expliquer mieux que moi, mais la façon dont l'Argentine vit le football, c'est-à-dire que pour revenir à ce que disait Gilbert tout à l'heure, on est un pays de football, contrairement à ce qu'on dit, on est quand même un pays de football qui a une grande histoire, mais on vit pas le football avec la passion absolu des Argentins, quoi, pour qui c'est peut-être, nous, peut-être qu'on a ce rapport-là, peut-être, hein, mais c'est moins avec le livre, mais les Argentins et le football, c'est... Mais...
Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important pour comprendre ce que représente le foot en Argentine. Déjà, c'est un pays qui est quand même assez jeune, l'Argentine, hein, qui a quoi, un peu plus de 200 ans d'histoire. Et finalement, les institutions les plus vieilles dans ce pays-là, c'est souvent les institutions de football, en fait, qui ont un peu plus de 100 ans d'histoire, par exemple. Le premier club créole, enfin, en tout cas, qui a été fondé par des personnes nées en Argentine, c'était Racing Club d'Avellaneda, un des cinq grands clubs du pays, qui est né en 1903. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des quartiers de Buenos Aires, par exemple, se sont formés autour des clubs, en fait, qui sont des clubs sociaux, tous. Encore aujourd'hui, c'est des clubs avec des socios. Il n'y a aucun club privé, hein, ça n'existe pas, c'est même interdit en Argentine. Donc, ces clubs sociaux étaient des endroits où se retrouvaient ceux qui s'installaient en Argentine. Et du coup, autour de ces clubs-là, c'est formé l'identité de quartier, c'est formé l'identité de ces gens-là aussi. Finalement, c'est dans ces endroits-là où ils se sont sentis argentins pour la première fois. Donc, et ensuite, le club,
c'est ils l'ont donné. C'était pour eux, quoi.
Exactement. Donc, je sais pas, t'arrivais dans le quartier
de leur vie, en fait.
Exactement. T'arrives dans le quartier de Boedo, qui est un des quartiers historiques, même du tango, de la musique, de la poésie aussi, ou même de la littérature à Buenos Aires. C'est le quartier de San Lorenzo, qui est le club du pape François. Et là-bas.
C'est la fameuse histoire de Carrefour?
Alors ça, c'est oui, on l'a raconté dans la revue de l'After.
C'est ordinaire, cette histoire.
San Lorenzo, donc est né dans ce quartier-là, et en fait, pendant la dictature militaire dans les années 70, ils ont été expulsés de leur quartier par la dictature qui voulait récupérer ces terrains-là qui étaient, on va dire, très coûteux. Et ils ont vendu ça à Carrefour. Donc San Lorenzo a été expédié en dehors de Buenos Aires. Et des années plus tard, ils ont réussi à récupérer ces terrains-là. Donc, ils ont réussi à revenir dans
la société Carrefour française.
Ouais. Ils ont foutu un hypermarché à la place du stade.
Ouais, exactement. Il y a toujours aujourd'hui, ils vont le détruire. Mais en tout cas, San Lorenzo, qui est parti de ce quartier-là, est quand même resté une identité très importante dans le quartier de Boedo. Et aujourd'hui, ils y reviennent. Et justement, c'est pour montrer que...
Je vous renvoie à la revue de l'After, hein, toujours disponible sur afterfood.media.
Exactement.
Où Georges raconte l'histoire. Carrefour qui a été, comment dirais-je, qui a peut-être par, comment dirais-je, commercialement, fallait le faire. Qui a été plutôt ouvert à la discussion, qui a pas dit dégagez avec votre foot, on en a rien à secouer.
Ouais, c'était un peu compliqué. Enfin, il y a eu une grande bataille avec les supporters pour pouvoir récupérer et racheter les terrains là pour le club de San Lorenzo. Mais voilà, tout ça pour dire que l'identité, en fait, ça fait partie de l'identité des Argentins, c'est-à-dire les clubs. Parce que finalement, quand ils sont arrivés, ça fait partie du début de leur identité. Et ensuite, ils l'ont.
L'Argentin a un club.
Exactement. Et ensuite, ils l'ont transmis. Parce que ça, c'est les grands-parents finalement, ou même les arrière-grands-parents, quand ils sont arrivés, ils se sont fait leur identité autour de ça. Et ils l'ont transmis à tout le monde. Et donc aujourd'hui. Voilà, l'une des premières questions, je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à Buenos Aires, Stéphane, une fois, mais quand tu prends le taxi, par exemple, la question c'est de qué cuadro sos, de quel club tu es. C'est tout de suite ce qu'on dit. Donc voilà, moi, ma belle famille est argentine, c'est une des premières questions qu'on m'a posées.
Et d'ailleurs,
on me l'a demandé, mais je t'ai répondu quoi, de signer
L'Olympique Rimnas Club de Nice.
Et d'ailleurs les joueurs argentins qui partent et qui sont dans les plus grands clubs européens restent toujours liés à leur club. On sait d'où ils viennent, on sait quel était leur club, que ce soit Di Maria, Guerrero, machin. Et je crois, genre, tu me corriges si je me trompe, je me semble qu'on en avait déjà parlé, mais l'un des grands problèmes de Messi au départ, c'est que lui, il n'en avait pas, il me semble.
C'était un peu flou, en fait.
Et ça, c'était une sorte d'anomalie pour les Argentins.
En fait, le problème, c'est que Messi, il n'a jamais joué en première division en Argentine. Mais il a un club quand même, à Rosario, c'est le club de Newell's Old Boys.
De sa famille?
En fait, à Rosario, tu as deux clubs. Newell's Old Boys, club rouge et noir, qui a été notamment le club de Marcelo Bielsa. D'ailleurs, c'est le stade Marcelo Bielsa. Et le deuxième club, c'est Rosario Central, qui est le club de Di Maria. Donc,
la famille de Messi. Beaujeu, Rosario Central, c'était la tradition du Beaujeu des techniciens, il me semble.
Exactement, c'est ça. Ouais. La famille de Messi était coupée en deux. T'avais, comme beaucoup d'ailleurs de familles à Rosario, t'as certains qui étaient de Central et l'autre qui était de Newell's Old Boys. Mais Messi, lui, a été de Old Boys. Il a fait ses premières années de footballeur à Newell's Old Boys.
Il a même pas 10 ans.
Non, je crois qu'il a 12 ans, un truc comme ça.
Il part plutôt vers 8 ans.
Mais du coup, il est attaché à ça.
Donc il a quand même ça. Mais il avait ce défaut.
Il y a des images de lui. Il a jamais joué en équipe première.
Comme il n'avait pas joué dans un club, c'était un problème pour les Argentins.
Mais c'est pour ça, Daniel, que on parle encore souvent en Argentine de la possibilité que Messi vienne terminer sa carrière à Newell's Old Boys. Moi, j'y suis allé à Rosario.
Pour corriger un peu l'anomalie, quoi, de pas avoir joué.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a des supporters là-bas, Rosario, ils croient vraiment. Il y a des socios qui se sont réunis, qui ont présenté déjà des projets à la mairie de Rosario pour dire le projet retour de Messi. Donc il faut voir, mais c'est une grande possibilité. Non, mais tu sais.
Là, il a dit qu'il voulait jouer jusqu'à au moins la Copa América 2024.
Je pense qu'il le fera.
En sélection. Ouais. Peut-être même la Coupe du Monde 26. Je sais pas.
Ouais, ça. Moi, sur la Copa América, j'y crois.
Il y aurait 39
quand même beaucoup,
2026.
Hein. Moi, sur la Copa América, j'y crois parce que peut-être qu'on mesure pas ici.
La Copa América qui a lieu où la prochaine?
On ne sait pas encore. Ça,
en Équateur,
l'Amérique du Sud.
En Équateur,
ils avaient parlé aux États-Unis aussi. C'était pas exactement décidé.
Au Qatar, non, ils peuvent pas la jouer au Qatar, non.
Le Qatar avait été invité
sur leur propose
à la Copa América il y a 4 ans.
On y va.
De la Conmebol, un petit Checo, s'ils aiment bien.
Ah oui.
Non, mais moi je serais pas étonné que Messi vienne faire à un moment donné une pige peut-être à Newell's Old Boys. Pourquoi pas jouer un match ou deux. Maradona avait joué 6 matchs à Newell's Old Boys quand il était revenu de sa suspension.
Ah oui.
Ouais, bien sûr.
Et il a pas joué qu'à Boca, Maradona et Argentino.
Non, avant la Coupe du Monde 94, il joue à Newell's Old Boys quelques matchs. Il a marqué 0 buts.
Mais un but pour le Real, les gars. On est à la 103e à prolongation entre le Real et l'Atlético. 2-1 pour le Real désormais. Dans la prolongation, on aura Fred Armel avec nous tout à l'heure. Alors Georges, bouge pas, dans quelques instants on revient, parce que là il faut qu'on lève une incompréhension là.
Il y en a pas mal.
Le post-Coupe du Monde, chambrage. Alors, est-ce que les Argentins...
Je vais vous laisser parce que pour moi, il n'y a aucune incompréhension.
Est-ce que les Argentins sont des infâmes voyous? Est-ce que c'est nous qui ne les comprenons pas?
J'avais peur en arrivant à la douane qu'on me dise vous venez d'Argentine.
Moi, je vais partir parce que rien ne m'a choqué.
T'avais présenté un passeport français, Georges.
Allez, on continue le débat en tout cas. Et puis le 32-16 est ouvert, évidemment, pour parler de foot argentin. A tout de suite dans l'after, le champion du monde, Georges Quirino, est parmi nous.